Bonjour à tous, chers fidèles d'IDFM et en particulier de cette émission qui s'appelle La Parole aux Jeunes. Alors aujourd'hui, moi, Didier, je reçois quelques élèves d'un collège proche de nos studios. Lequel ?
Émilie du Châtelet.
Émilie du Châtelet, dans quelle ville ?
Deuil-la-Barre.
Oh, c'est bien, Deuil-la-Barre, oui, c'est tout à côté. Ils sont venus à pied d'ailleurs. On va commencer par un petit tour de table. Vas-y.
Bonjour, je m'appelle Océane.
Alors, de quoi vas-tu parler, Océane ?
Du top 3 des jeux vidéo mobiles en France.
Voilà, on va apprendre plein de choses. Ensuite, James ?
Moi, je vais parler de la finale de la Ligue des Champions.
Super. Julia ?
Bonjour, je m'appelle Julia et je vais parler du métier de vétérinaire.
D'accord.
Donc, moi, Arthur, je vais vous parler d'une femme très connue, qui s'appelle Malala Yousafzai.
Une personnalité vraiment importante.
Moi, c'est Noah, mais je vais vous parler des vertus de la douche froide.
Ah.
Bonjour, moi, c'est Ash. Je vais vous parler de Fairy Tail.
Voilà, donc Fairy Tail.
Qui est un animé, manga.
Japonais,
oui.
Voilà, que tu connais sur le bout des doigts. Alors, on va commencer donc par Océane. Tu vas nous donner le top 3 des jeux vidéo les plus populaires sur téléphone. Vas-y, à toi, Océane.
Donc, je vais vous donner ce top 3. J'ai choisi cette rubrique car j'aime beaucoup les jeux vidéo. Je joue beaucoup. Donc, le top 3 sera... en première position, il y aurait Call of Duty Mobile. C'est un jeu de guerre qui se joue du coup sur téléphone. On peut aussi jouer sur PC. Le deuxième, c'est Genshin Impact. C'est un jeu d'aventure et tout, où il y a du combat et tout. Et en troisième position, c'est Clash Royale. C'est un jeu stratégique avec aussi un peu de combat.
Alors, finalement, contrairement à ce qu'on peut imaginer, toi, tu es une jeune fille et pourtant, tu t'intéresses aux jeux de guerre.
Oui.
Parce qu'en gros, qu'est-ce qu'il faut faire à chaque fois dans ces jeux ?
Dans ces jeux, on est plus d'une cinquantaine de personnes, avec parfois aussi des bots. Et il faut être le seul survivant. Donc, en gros, il faut tous les tuer avec des armes.
Voilà. C'est quoi des bots, c'est ça ?
C'est des personnes non-joueurs. En gros, ça va être des ordinateurs.
Et contre lesquels vous allez jouer ?
Oui.
D'accord. Je crois que ça fait... Tu es encore très jeune. Quel âge tu as ?
J'ai 12 ans.
Et depuis combien de temps tu t'intéresses aux jeux vidéo ?
Depuis longtemps, depuis mes 3-4 ans.
Depuis l'âge de 3 ans ? Non.
Si, je pense. Depuis l'âge de 3 ans, je pense que je joue, mais sur une tablette ou sur le téléphone d'un parent.
Tu joues à quoi ?
Des jeux comme Cyber Surfer, Mario Bros sur la DS. Et voilà.
Alors, tu peux nous redire le titre du premier jeu que tu as cité ?
Call of Duty Mobile.
Voilà, Call of Duty, c'est connu. Mais alors, en gros, c'est quoi ? Tu es qui ? Mais quels sont les personnages ? Peut-être que je vais m'adresser aux spécialistes.
Après, il n'y a pas vraiment de personnages... Comment dire, il n'y a pas vraiment de vrais personnages, c'est juste des skins, on va dire.
Des skins ?
Ouais,
c'est-à-dire ?
En gros, c'est des personnages qui seront habillés. Ça va juste être un personnage. En gros, ça va juste être un personnage de fille ou de garçon qui sera habillé de façon différente et tout.
C'est pas une personnalité réelle. Des fois, il y a des collaborations, mais ça, c'est autre chose. Sinon, c'est des skins normales créés par. Du coup, Activision, le studio qui a fait Call of Duty.
Alors, mais les ennemis, qui sont les ennemis qu'il faut tuer tous ?
Comme Océane l'a dit, c'est des personnages, des vrais joueurs de la vraie vie, ou sinon ça peut être des PNJ, des personnages non-joueurs.
Tout un vocabulaire, effectivement. Dites-moi, alors on joue à plusieurs ?
Ouais.
Ouais ? On joue en ligne ?
Oui.
Et donc ?
Il faut jouer en ligne. On peut aussi jouer avec des amis. Genre se connecter avec des amis. Et en gros, on sera plusieurs pour une partie. Genre, en gros, par exemple, ça va être des équipes de 4. Et en gros, il y aura plein d'équipes de 4 et il faudra être la dernière équipe à être vivante.
Donc, en fait, vous vous donnez rendez-vous à telle heure, par exemple, et puis vous commencez une partie.
Voilà.
D'accord. Avec 3 ou 4 amis, c'est ça ?
Alors, oui.
Des vrais amis dans la vraie vie ou alors des amis virtuels, des amis que tu as connus sur le jeu ?
Ça peut être oui, des amis qu'on connaît ou des amis qu'on a rencontrés sur le jeu, par exemple. Si dans certains jeux, on peut lancer et en fait, on sera avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas et après, on peut s'ajouter et tout.
Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé, je pose la question un petit peu à tous, à partir d'amis inconnus, d'amis virtuels, d'amis connus sur le jeu, d'aller plus loin dans les relations?
Non.
En dehors du jeu?
Non. Non,
moi, non.
J'aurais bien aimé.
Vas-y, dis pourquoi.
Non, parce que en fait, avant, j'ai beaucoup d'amis avant qui n'avaient pas la Play, la PS5, etc. Du coup, je devais me trouver des amis dans les jeux vidéo. J'en ai trouvé un qui s'appelle Rodrigo Pisco. Avec lui, on a passé des heures de jeu ensemble. J'aurais bien aimé le voir dans la vraie vie plutôt. Mais il a arrêté de se connecter pendant un bon moment et je ne l'ai plus jamais revu connecté depuis ce jour.
Ah, un ami jamais vu et déjà perdu. Tu savais un peu quel âge il avait, où est-ce qu'il vivait, ou alors rien du tout?
Il avait le même âge que moi, du coup 13 ans. Il habitait à Bordeaux et c'est tout ce que je m'en souvenais de ses informations personnelles.
Ok. À ton avis, pourquoi il a disparu?
Peut-être que sa PS4 l'a été cassée.
Ah mince.
Il y a des chances, hein, ça arrive.
Mais il aurait pu jouer sur son téléphone, du coup, non?
Oui, mais je l'ai qu'en ami sur des jeux de PS4. Du coup, je pourrais pas l'ajouter. Je pourrais pas le voir, etc.
D'accord. Tu redonnes son nom, on va peut-être lancer un appel.
Rodrigo Pisco, c'est tout ce que je sais.
Bon, Rodrigo, si tu nous entends, même à Bordeaux, grâce à DAB+, bah écoute, tu lui contactes IDFM et puis on te remettra en lien avec ton pote virtuel, quoi. Voilà. Ceci dit, les enfants, des fois, ça arrive. Hein, on connaît quelqu'un sur un jeu et puis après, on va plus loin. Et puis, est-ce que vous connaissez les dangers?
Oui.
Bah, James,
oui.
Alors, tu veux dire?
Ça peut tomber en harcèlement. Ça peut tomber en harcèlement virtuel. Ça peut aller très grave. Ça peut même aller au tribunal. Oui. Aussi, ça peut aussi des gens de pas ton âge. Du coup, ils peuvent avoir des références. Et après, des références que toi, tu n'as pas. Par exemple, si un groupe d'amis, mais que c'est des adultes et que toi, que t'es un enfant, tu peux te retrouver exclu et tu vas te retrouver tout seul. Et ça, ça peut tomber en dépression dans le pire des cas. Du coup, c'est assez dangereux quand même d'avoir des amis virtuels que tu connais pas.
Est-ce que ça t'est arrivé ou pas?
Non, jamais. Mais je connais des gens à qui ça leur est déjà arrivé. Et même un ami, il est arrêté d'aller à l'école pendant plusieurs jours à cause de ça.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme danger, en fait?
Le piratage, par exemple. Imaginons si je joue à un jeu où il faut payer, par exemple, pour avoir des trucs. Mais je peux avoir mis beaucoup d'argent dedans. Et par exemple, si je tombe sur une vidéo ou un truc, ou un ami ou quelqu'un que j'ai rencontré du coup dans les jeux, qui va me dire si je vais sur le site et que je rentre mon compte, bah, j'aurai de l'argent dans le jeu ou d'autres trucs. Et au lieu de recevoir l'argent, bah, le seul truc que tu auras gagné, c'est que la prochaine fois que tu vas essayer de te connecter, bah, ça ne marchera plus.
Est-ce que ça t'est arrivé, ça?
Non, mais j'ai un ami à qui c'est arrivé.
Quand tu parles d'argent, c'est quel genre de somme?
Par exemple, si je mets 10 euros par exemple, dans Fortnite, j'aurai 1000 V-Bucks, je crois.
C'est-à-dire quoi? C'est des vies, des outils
En fait, ça sera des pièces. Et en gros, tu pourras acheter avec des skins ou des outils comme des pioches, des sacs à dos ou des émotes.
Donc pour poursuivre l'aventure.
Oui.
Et te protéger. Voilà, nous sommes toujours bien sur IDFM dans l'émission La Parole aux Jeunes avec les élèves. Rappelez-moi déjà de quel collège vous êtes.
Émilie Duchâtelet à Deuil-la-Barre.
Voilà, Émilie Duchâtelet à Deuil-la-Barre. On aura un petit podcast tout à l'heure sur ce personnage fantastique qui était Émilie Duchâtelet. Alors, on écoute un titre que vous avez choisi qui s'appelle, c'est Arthur qui l'avait choisi.
Californication de Red Hot Chili Peppers.
Ok, dis-nous pourquoi.
Parce que je trouve que c'est un titre de rock assez chill que j'aime bien.
Voilà. Ça veut dire quoi, chill?
Ça veut dire tranquille, calme. Voilà, en anglais, c'est de l'anglais.
Du rock calme.
Voilà.
Qui parle quand même de la Californie.
Et aussi du fait que les États-Unis répandaient leurs traditions un peu partout dans le monde.
Voilà, ce qu'on appelle le soft power. Bah, on va écouter un extrait de cette chanson qui se présente, le clip se présente sous la forme d'un jeu vidéo, c'est ça, hein, qui se déroule en Californie, à San Francisco. And if you want these kind of dreams, it's Californication. Dites-moi, vous jouez tous aux jeux vidéo, j'imagine ?
Oui, oui.
Tous sur votre téléphone ou sur des tablettes ?
Moi, je joue plutôt sur Switch et sur PC.
D'accord.
Pareil, Switch et PC.
C'est quoi Switch déjà ?
Nintendo Switch, c'est une Nintendo portable, mais voilà.
Ok. Dites-moi, combien de temps vous passez entre nous ? On ne dira pas à vos parents.
Moi, souvent, trop tard, nos parents vont voir. Souvent, je joue le week-end. Plus le week-end, mais ça m'arrive aussi de jouer en semaine. Souvent, quand j'ai terminé tout ce que je fais, je joue. Parce que si je finis pas, bah, ça peut me faire perdre du temps. Et ça peut vraiment... ça devient encombrant après, parce que tu as beaucoup plus de choses à faire. Moi, je préfère faire ce que j'ai à faire sur le long terme de la semaine. Du coup, je préfère faire ce que j'ai à faire.
Les devoirs ?
Oui, les devoirs. Souvent, je les fais, je fais les devoirs de toute la semaine.
C'est organisé au moins. Et pour pouvoir jouer davantage.
Oui, pour pouvoir jouer davantage. C'est plus, on s'organise plus pour jouer davantage que pour avoir des meilleures notes.
Ah mince.
Mince.
D'accord. C'est plus motivant d'avoir plus de jeux vidéo, enfin plus de durée
oui,
que des,
plus,
mauvais, que
c'est
des
plus,
bonnes notes.
C'est plus. C'est plus parce que si nos parents ils nous disent que si on a fait tout ce qu'on a à faire, ranger nos chambres, nettoyer la maison, faire nos devoirs, on fera plus vite. Mais si c'est trop vite, si la somme elle est trop importante, le travail risque d'être bâclé. Donc à mon avis, il faudrait plus faire une récompense, mais pas trop non plus. Parce que sinon, le travail risque d'être bâclé et il faudra faire tout derrière.
Donc avant, on privait les enfants de dessert, maintenant on les prive de jeux vidéo.
Oui, c'est ça.
Alors moi, c'est l'inverse. C'est justement, si je fais bien mon travail, par exemple, que j'ai 18 ou plus dans des langues vivantes, bah, j'ai le droit de jouer au PC où il y a mon jeu vidéo préféré le week-end parce que c'est aussi celui de mon père, du coup il n'est pas en libre accès. Et ma Nintendo, elle est un peu. Elle a un contrôle parental, du coup j'ai qu'à une heure par jour et encore les une heure je ne les utilise pas tous les jours parce qu'il y a des activités extrascolaires évidemment.
Ok, ben, c'est pas mal le contrôle parental finalement. Et les autres, combien de temps
ça dépend. Les vacances, ça peut aller en illimité. 24 heures par jour, c'est pas la routine.
Bah oui. 24 heures par jour ?
Non, en vrai, de vrai, 10 heures. Mon maximum, c'était 12 heures d'affilée.
Et on est dans quel état après ? 10 heures d'affilée de jeu ?
Excité, je sais pas pourquoi. J'ai envie de sauter partout, aller jouer dehors, faire toucher de l'herbe aussi.
Toucher de l'herbe ?
Respirer
le gazon
de l'air pur.
Dans ton jardin ?
Non, dehors, dehors.
Dehors, ok. Et toi, Noam ?
Moi c'était aussi 10 heures.
10 heures dans la journée
d'affilée.
Okay.
Et moi sinon je joue 1 à 2 heures par jour. Mais comme l'a dit H, quand on a fini les 10 heures, pour moi c'est plus tu dis bah qu'est-ce que j'ai fait vraiment. Genre ça m'a servi à quoi, quoi.
Ah, bonne question. Alors ça t'a servi à quoi?
Souvent je fais un truc où j'ai perdu mon temps ou parce que en fait ça passe trop vite en fait quand tu joues et tu vois pas le temps passer. Et c'est ça un peu le problème des jeux vidéo.
Bien sûr, bien vu. On va passer au deuxième sujet. Alors, deuxième sujet, c'est James.
Oui, bonjour.
Rebonjour, James. Tu vas nous parler de quoi ?
Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais reparler de la finale de la Ligue des Champions. Elle se passera le 30 mai 2026. Aussi, comme l'a dit Océane, sur les jeux vidéo, changeons un peu de sujet, GTA 6 qui va sortir aussi en mai 2026.
Oh là là, ça va être chargé le mois de mai pour les collégiens.
Donc, la finale se déroulera au Puksa Arena à Budapest en Hongrie. D'ailleurs, Budapest était un célèbre joueur.
Puksas était un célèbre joueur, oui.
Oui, Puksas était un célèbre joueur de foot.
De Hongrie ?
De Hongrie.
Ouais.
Et c'est pour cela souvent qu'ils ont décidé d'appeler la ville comme ça.
Le stade national, ouais. Dis-moi, il était joueur dans quelle équipe, tu sais?
Non, je sais pas.
Ah, on en a parlé un peu.
Le Real Madrid.
Ouais, le Real. Alors, le Real, qu'est-ce qu'il a de particulier quand même, le Real?
Il a des assez bons joueurs. Il a gagné 15 fois la Ligue des Champions. 15 fois.
15 fois. Sur 18 finales, il a gagné 15 fois.
Et très loin derrière le deuxième, ouais. Le Bayern Munich, ouais. Qui ouais. A gagné...
6 fois.
6 fois. Quand même beaucoup de points d'écart.
Ah, énormément, ouais. Et la troisième équipe qui a le plus remporté...
C'est Barcelone.
C'est Barcelone.
Avec 5 ouais. Coupes gagnées.
Ouais, ce qui est déjà pas mal. Et l'année dernière, c'était qui?
L'année dernière, le gagnant. L'année dernière,
enfin, cette année, en 2025. Bah, c'est qui, les enfants?
C'est Paris. PSG.
Mais oui, c'est Paris, c'est nous. C'est vous. Ok, est-ce qu'ils vont gagner cette année?
Cette année, je ne suis pas très très sûre, parce que aussi, y a des joueurs qui sont, enfin, ils sont partis aussi, il y a des joueurs qui sont arrivés. Mais je dirais, moi, je suis plus pour... Real Madrid et le Bayern München, beaucoup plus. Ah. Mais je suis aussi pour le PSG, forcément. C'est mon pays, c'est où je suis né.
Ok. Et puis alors, quel joueur du PSG est parti, le plus célèbre?
Il y a Kylian Mbappé. Il est parti, ah oui. Il est parti au Real.
Bah oui, il a fait un bon choix. C'était son choix, de son rêve d'enfant.
D'ailleurs aussi, il y a des gens qui disent que depuis qu'il est au Real Madrid, on fait que perdre. Les Real Madrid ne fait que perdre aussi. Il y a des gens qui disent ça.
Ouais, ça, il fait souvent des belles performances quand même. Hein. Des fois, 4 buts dans un match et tout ça, oui. Alors, dites-moi quand même, quand vous regardez les matchs à la télé, ou peut-être si vous avez eu la chance d'assister à un match de la Champions League, non? Peut-être au stade de...
Non.
Au Parc des Princes, non? Personne?
J'ai jamais vu de match.
J'ai déjà vu un match au Parc des Princes.
Oui, Julia. Ah, quel match?
Je sais plus, c'était il y a quelques années. Je sais que...
Ça devait être Paris?
Oui, c'était Paris contre je sais plus qui. Et Paris avait marqué 8 buts contre 0.
Ah ouais, beaucoup quand même.
Donc 4 de Mbappé.
Ah bah oui. Ah bah c'est pas... Il n'y a pas si longtemps que ça quand même, alors. Donc, alors qu'est-ce que ça fait, Julia, d'être au Parc des Princes quand Paris marque 8 buts?
Il y a beaucoup d'ambiance, il y a eu beaucoup de vagues aussi.
Oui, les Ola.
Oui, les Ola. Mmh. Sinon, oui, c'était cool. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'ambiance, mais c'est génial.
T'aurais envie d'y retourner?
Bah, je suis pas très foot, donc pas spécialement, mais des trucs comme ça, oui.
Une belle expérience quand même.
Oui. Ouais.
Alors, dites-moi, oui, je vous disais, quand y a un match de la Champions League, qu'est-ce qu'on entend?
Beaucoup de
l'hymne
européen.
Alors, c'est pas l'hymne européen, c'est l'hymne de l'UEFA, l'organisation qui organise les matchs. Qu'est-ce qu'il a de particulier, cet hymne?
Il y a trois langues, ouais. Anglais, allemand et français.
Voilà, c'est un hymne qui n'est pas très long, hein, mais qui est extrêmement bien fait, on va dire, qui est très entraînant.
Et qui dit « c'est nous les meilleurs ».
Voilà, et en gros, c'est la même phrase qui est répétée, « ce sont les meilleurs », mais... Une fois en anglais, une fois en français, une fois
en
allemand. Voilà. Ben, on va l'écouter, justement.
Intéressant.
Nous sommes toujours bien sur IDFM dans l'émission La Parole aux Jeunes, avec les jeunes de quel collège déjà, rappelez-moi ?
Émilie Châtelet, de Deuil-la-Barre.
Oh là là, c'est bien, on l'a entendu. Donc on va passer à un troisième sujet. Alors le sujet Noam. Alors là, Noam, quand j'ai vu le sujet donc, que tu voulais aborder, je me suis dit tiens, c'est original. Noam, à toi la parole.
Bah bonjour, je m'appelle Noam, fondateur du podcast Forerunner, le premier podcast qui regroupe développement personnel et running. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qu'on voit partout dans les vidéos des persos. Du coup, donc, j'ai commencé à en prendre. Et du coup, dans ma chronique, on va parler des bienfaits de la douche froide. Alors, déjà, la douche froide, on peut l'associer à de la cryothérapie. Mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la cryothérapie, c'est une technique thérapeutique qui consiste à utiliser le froid à des fins médicales. Les douches froides, ça va aussi augmenter la circulation sanguine et augmenter le nombre de globules blancs. Et les douches froides, ça va aussi sécréter de la dopamine et de la sérotonine. Du coup, c'est les hormones du bonheur. Et du coup, en gros, ton niveau de bonheur de base sera plus haut après une douche froide, ce qu'on appelle la gratification différée. Et les douches froides aussi, ça va te mettre dans un état d'inconfort. Parce que c'est vrai que dans ce monde, on vit vraiment dans un monde où le confort, il est à portée de main, avec notre portable et tout ça. Et que la petite claque que te met la douche froide, bah, ça va te faire réfléchir. Et donc j'ai fini avec ce que je voulais dire. J'en profite, si vous voulez en savoir plus sur le développement personnel et le running, n'hésitez pas à écouter mon podcast Forerunner sur toutes les plateformes. Salut.
Ah mais c'est super ça, tu fais un boulot de... On va t'embaucher comme animateur à IDFM. Alors redis-nous le titre de ton podcast, c'est...
Forerunner.
Forerunner, pourquoi Forerunner ?
Parce qu'en fait, il y a une montre Garmin qui s'appelle Forerunner et j'ai bien aimé le nom. Donc je l'ai repris et comme du coup c'est la montre que beaucoup de gens prennent pour courir, pour faire du sport et tout. Donc,
ok, d'accord.
Voilà.
Donc ton prénom, rappelle-nous.
Noam.
Comment on fait pour te retrouver ton podcast ?
Sur Spotify, okay. Ou podcast sur Apple ou toutes les plateformes en gros. Il y aura, vous marquez Forerunner et donc voilà.
D'accord, bah, on ne va pas manquer ça, parce que franchement, ça vaut le coup. Voilà, puis pour compléter un peu cette chronique tonique, hein, très tonique, on va écouter aussi un duo né de l'amitié entre deux garçons qui s'appellent Jean et Simon et qui sont intitulés Midi 51. Alors, c'est un drôle de nom pour un groupe, mais il faut savoir que Midi c'était un format de fichiers musical dans les années 80. Donc ils sont donné ce titre-là et ils interprètent une chanson qui s'appelle « Douche froide, ça fait du bien ».
Douche froide.
retrouve les jeunes du collège Émilie Duchâtelet de Deuil. Alors, après avoir parlé du top 3 des jeux vidéo, de la finale des de la Ligue des Champions 2016 et de des vertus de la douche froide avec Noam, on va écouter...
2026,
qu'est-ce que j'ai dit? 2016?
Oui.
Ah là là, j'ai 10 ans de retard. Merci. Surveillez bien ce que je dis. Alors, on va écouter H, tiens, celui qui vient de me rappeler à l'ordre. De quoi tu vas nous parler?
Je vais vous parler de Fairy Tail.
Vas-y, dis-nous tout.
Du coup, Fairy Tail, c'est mon animé préféré pour plusieurs raisons. D'abord, je trouve que l'histoire, elle est très intéressante et que chaque personnage a sa valeur parce qu'elle est travaillée dans son passé. Et ils sont souvent tous reliés d'une façon ou d'une autre. Du coup, Fairy Tail est créé par Hiro Mashima au Japon pendant l'année 2006. Hiro Mashima est né le 3 mai 1977 au Japon. Il a commencé à créer des mangas en 1999 par Rave, puis Fairy Tail et Eden Zero, et il continue toujours à enchaîner des mangas. Fairy Tail aborde des thèmes comme l'amitié, l'humour, la magie. On y suit l'histoire d'une jeune fille appelée Lucy Artwilia qui rêvait de rejoindre la guilde de Fairy Tail créée par Mavis. Un jour, elle voulait rencontrer la salamandre en mage de Fairy Tail. Il s'avérait que c'était pas la vraie, mais juste un imitateur qui voulait attraper des filles. Quelques temps après, elle a rencontré un homme avec un chat volant qui s'appelait Natsu et Happy, et il s'avérait être que c'était lui la vraie salamandre. Et le lendemain, Natsu et Happy les ont emmenés à la guilde de Fairy Tail, et après on suit leur aventure. J'espère que vous allez aimer. Je vous conseille de regarder. Merci IDFM Radio de nous avoir accueillis.
Alors dis-nous, pourquoi tu aimes spécialement cet anime? D'abord, qu'est-ce que c'est un anime? Ou un animé, je ne sais pas comment tu dis. Qu'est-ce que c'est?
C'est l'adaptation des mangas en série, en dessin animé, on va dire.
D'accord. Alors pourquoi tu aimes particulièrement celui-là?
Comme je l'ai dit, je trouve que l'histoire elle est intéressante, que chaque arc est différent, un peu répétitif, mais... Parce qu'ils rentrent, ils vont se battre, ils reviennent, ils vont se battre, ils reviennent. Mais chaque personnage, en tout cas, ils sont tous travaillés. Et c'est ça que je trouve bien. Parce que chacun a une valeur, chacun est essentiel à l'histoire, même si on ne les voit pas souvent.
D'accord. Alors, comment on appelle ce genre de manga ou d'anime? Comment ça s'appelle?
C'est shonen.
D'accord. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire jeune garçon, je crois.
Oui, exactement. Deux mots japonais. Pourquoi jeune garçon?
Parce que certaines personnes disent que les mangas, c'est de type shonen, on va dire, c'est pour les garçons, parce que c'est du combat.
Et qu'est-ce que t'en penses, toi? Les filles aussi peuvent apprécier ou pas?
C'est vrai, moi, je connais des filles. Je connais une fille en particulier qui regarde beaucoup des shonen.
Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui sait, comment on appelle les mangas plutôt réservés pour les filles? Vas-y, oui.
Du coup, c'est les shoujo.
D'accord. Alors, dis-moi, en gros, quel est un peu le message de tous ces mangas pour la jeunesse? C'est plutôt un message positif.
C'est tous comme n'abandonnez jamais, foncez droit vers vos buts, jamais avoir peur face à l'adversaire.
Ça, ne jamais abandonner et puis se dépasser, y compris dans les épreuves, ne jamais laisser tomber. Noam, tu veux dire quelque chose? Vas-y.
On dit beaucoup, il y a une expression qui s'appelle esprit shonen, et donc en gros c'est ça en fait, c'est comme vous l'avez dit dans... Ne jamais abandonner, rester déterminé et tout.
Alors, est-ce que vous êtes comme ça, vous, les enfants?
Oui.
Tous? Vous n'abandonnez jamais? Oui.
Oui.
Oui, c'est vrai?
Ouais, oui. Des fois, enfin...
une tête de mule.
T'as une tête de mule? Qui c'est qui a une tête de mule?
Quand j'ai une idée en tête, je peux pas m'arrêter avant que ça échoue. Ou que ça réussisse.
Ah, que ça réussisse quand même. T'as c'est des bien. Exemples dans la vie de tous les jours?
Pas tellement.
Bon, tu nous diras peut-être tout à l'heure quand on retrouve Voilà. Oui, donc on va écouter un extrait musical. Lequel?
Du générique numéro 3 de Fairy Tail, si je me souviens bien, de l'épisode 20 à 35, je crois.
Ouais.
Qui est plutôt calme, doux, intéressant.
Bon, on écoute un extrait.
Where are you going? say goodbye.
Voilà, alors là, je me tourne vers Cécile, qui est documentaliste à quel collège déjà ?
Émilie Duchâtelet.
Voilà, alors au CDI, au centre de documentation du collège, est-ce que les mangas existent déjà ? Est-ce qu'il y en a ?
Oui, bonjour. Alors, il y a beaucoup de mangas au collège Émilie Duchâtelet. Qu'est-ce que vous en pensez ? Au CDI, il y en a pas mal quand même.
Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a toute une étagère.
En fait, oui, et une étagère spéciale, une très belle étagère d'ailleurs. En fait, ça remonte à quelques années où j'ai une génération de troisième qui vraiment m'a initiée au manga, pas vraiment initiée parce que j'en lis pas beaucoup, mais je connaissais pas du tout ce genre. Et en fait, ils m'ont aidé à créer un fond, en fait, ils m'ont orienté vers les mangas qui les intéressaient le plus. Bon, évidemment, je me suis renseignée, j'ai lu d'abord, et c'est comme ça que j'ai commencé à acheter des mangas pour le CDI, ce qui était quand même devenu assez indispensable.
Voilà. Et il paraît que j'ai entendu dire tout à l'heure qu'il y avait un manga qui partait pas mal en ce moment, qui était lu pas mal.
Effectivement, CDI. Alors en ce moment, c'est un gros carton pour les carnets de l'apothicaire.
Qu'est-ce que c'est ça, les carnets de l'apothicaire ?
Alors les carnets de l'apothicaire, je vais plutôt laisser H en parler, parce qu'il en parle mieux que moi.
Il parle très bien.
Oui.
Du coup, moi, je voulais le commencer ce matin. Je voulais emprunter le tome 1, mais malheureusement, quelqu'un l'a pris.
Quelqu'un l'a pris.
Ah!
Ça, c'est très dommage.
Mais il va le rendre bientôt.
Oui, j'espère. Vite. C'est une fille qui s'appelle Mao Mao. Et après, là, je ne peux rien vous dire de plus. Je n'ai pas vu la suite.
D'accord. Noam.
Ah, c'est Noam qui...
Donc, c'est une fille qui s'appelle Mao Mao. C'est une apothicaire. Et donc, elle est originaire du quartier des plaisirs. Et elle s'est fait enlever... et elle est atterrie dans un délire harem, tout ça. Et donc, elle est première dame de concubines, de plusieurs concubines. Et donc, dans ses aventures, on va apprendre l'existence de certains poisons, de comment les gens veulent assassiner les concubines, on va dire, et tout ça. Donc, c'est un très, très bon... je crois que c'est plus classé seinen, mais c'est un très, très bon manga à voir.
Alors, seinen, c'est des mangas plutôt pour...
Pour plus... jeunes adultes, ouais. Parce que ça aborde des thèmes ouais. moins adolescents, moins moins adolescents, moins enfants, tout ça.
Alors effectivement, j'ai un peu hésité avant de l'acquérir pour le CDI du collège, mais après je me suis renseignée auprès d'autres professeurs documentalistes parce qu'on travaille beaucoup en groupe comme ça, on s'échange un petit peu nos bons plans et puis nos façons de travailler. Et puis, beaucoup l'ont acheté, donc je me suis lancée. Mais ça a beaucoup de succès. Et le deuxième manga qui a énormément de succès, c'est Blue Lock.
Ah, qu'est-ce que c'est, Blue Lock ?
Alors, Blue Lock, c'est plus autour du foot.
Ouais, c'est un manga basé sur le foot. L'histoire d'un attaquant qui va être formé dans quelque chose justement qu'on appelle le Blue Lock. C'est un gros carré, dedans il y a beaucoup de choses, il n'y a que du foot en tout cas, rien d'autre, pas de basket, pas de badminton, etc., que du foot. Et on suit l'histoire du coup de Izagi qui va essayer, que le Blue Lock est fait pour essayer de créer le meilleur attaquant du monde pour gagner la Coupe du Monde 2022, je crois.
Alors dites-moi, les enfants, vous êtes en 5e et 4e, c'est ça ?
C'est ça. Oui.
À part des mangas, vous lisez ?
Oui, ah oui, beaucoup de romans.
Alors
beaucoup de romans, par exemple.
Je lis beaucoup Percy Jackson,
mythologie grecque,
ouais,
on va dire.
Toute la mythologie, j'aime beaucoup. Je me suis laissée porter. Enfin, j'ai découvert ça d'un copain, un grand copain. Y a plein de livres. Après, il y a une suite. Il y a encore une autre série sur la suite. Et donc, je trouve ça assez fascinant. Des fois, je peux y passer 3 heures par jour, facile.
Alors, si tu es intéressé par la mythologie grecque, je te conseille d'écouter ma chronique qui passe le dimanche matin sur IDFM, dans la matinale de Mehdi, qui s'appelle Nec plus Ultra, une chronique consacrée aux expressions issues de la mythologie grecque. Voilà. On va passer encore Arthur, c'est encore toi.
Oui.
Tu vas nous parler de quel sujet, Arthur ?
Alors, je vais parler d'une femme qui s'appelle Malala Yousafzai. Donc, vous la connaissez peut-être de nom, mais est-ce que vous connaissez réellement son histoire ? En tout cas, ce que je sais, c'est qu'après ce podcast, vous en saurez sûrement plus qu'actuellement. Elle est née le 12 juillet 1997 à Mingora, dans le Pakistan, dans la région du Swat. Donc, son père, il travaille dans une école privée pour filles. Et donc Malala, évidemment, va dans cette école. Un jour, des extrémistes religieux qui se nomment les talibans arrivent dans la région. Et ils disent que dans la religion musulmane, les filles ne doivent pas aller à l'école. Et donc Malala, qui est une élève assez brillante, ne refuse de se dire « je ne vais plus à l'école ». Et du coup, elle continue d'aller à l'école et on commence à envoyer des podcasts à la BBC radio anglaise. Elle explique dans ses podcasts que fait les talibans dans son pays, et malgré le fait que plusieurs de ses camarades aient été tués, elle continue d'aller à l'école, donc ce qui peut se révéler dangereux, comme on va le voir par la suite. Donc un jour, elle rentrait en bus de l'école et deux talibans armés entrèrent dans le bus et l'un d'eux tira sur Malala dans la tête. Donc, heureusement pour elle, deux médecins anglais l'ont emmenée en Angleterre en urgence absolue à l'hôpital de Birmingham, où elle put recevoir les premiers soins. À partir de ce jour, elle devint célèbre, mais ce n'était pas pour autant fini. Elle eut le prix Nobel de la paix en 2014 à l'âge de 17 ans. Vous vous rendez compte, elle n'était même pas majeure. Et donc, du coup, évidemment, elle fut la première à avoir le prix Nobel de la paix aussi jeune. Donc aujourd'hui, elle continue de créer des associations, elle écrit des livres et se bat encore dans le monde afin de défendre et de soutenir le droit des femmes. Donc je l'ai choisie elle, mais j'aurais pu choisir une autre femme, car il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas assez, voire pas du tout connues pour ce qu'elles font dans le monde. Il ne faut pas les oublier. Et donc c'était Arthur de l'atelier Web Radio.
Très bien, Arthur. Félicitations. On lève tous le pouce pour toi. Voilà. Oui. Alors, vous avez demandé à écouter un autre titre qui s'appelle un titre de Dizzys. Qui est-ce qu'il avait choisi ? Ah oui, Noam, tu nous présentes ?
Donc, c'est le nouveau titre qui est passé dans son album. Du coup, on ne s'en rappellera pas, je crois. Et du coup, c'est Mélodrama avec Théodora. Et c'est tout, j'ai que ça à dire. C'est l'histoire d'un chagrin d'amour. Et donc, ils vont se quitter. Et donc, voilà, je crois que j'ai dit tout.
Avec un texte qui est très bien écrit, je trouve. Mm. Avec des paroles comme « Encore toujours pareil, encore, il pleut de l'eau de Javel sur mon cœur ». Ça veut dire quoi ?
Comme l'eau de Javel, ça fait mal. Du coup, en gros, c'est comme si il avait mal, en fait, l'amour, le divorce, tout ça.
Un amour qui s'est terminé pour elle, mais pas pour lui, peut-être. Oui, qu'est-ce que tu veux dire, Ash, vas-y.
C'est une métaphore. L'amour fait aussi du malheur. Je trouve que c'est une métaphore.
Voilà, comme de l'eau de Javel sur le cœur. Et puis, une parole que j'aime beaucoup, c'est « Je suis comme un son que t'aurais pas, Shazam ». Voilà. On écoute un extrait de This Is, Théodora, Mélodrama.
Blessé, baisé, VGT dans le TGV, dégoûté, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Encore, toujours pareil, il pleut de l'eau de Javel. Ça fait de l'aquarelle sur les couleurs de la vie sans elle. Tout coule sur moi, sur la douleur de la vie sans toi. Tout roule pour toi. J'suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un condensé mêlé mélodrame. Ça fait si mal, alors que ça fait pas longtemps. Ce son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un condensé mêlé mélodrame. C'est donc la dernière fois qu'on s'accompagne.
Oh, j'pleure. peine, surtout sous les yeux. Babe, tu m'as fait trop de peine, j'ai même pleuré Dieu. Je t'ai dit je t'aime plus d'une fois ou deux. Mais moi j'ai dit je t'aime en un homme pas deux. Tu me donnes le bleu d'hiver. Je suis dans un étoilé mais je repense à hier. Galerie RER. C'est ton pied, c'est mon pied, pourquoi tout foutre en l'air? Je suis comme ce son que t'aurais pas.
Nous sommes toujours bien dans l'émission La Parole aux jeunes, avec les élèves du collège, c'est
Émilie
quoi déjà
Émilie
du Chapelet à Deuil. Julia,
oui,
tu vas nous parler d'un métier que tu aimerais exercer.
Le peut-être. Métier de vétérinaire.
Alors dis-nous pourquoi.
Car j'ai toujours rêvé d'être vétérinaire, car j'ai toujours été entourée d'animaux via la famille et même chez moi. Donc ça me tient à cœur de pouvoir les soigner et d'être toujours entourée d'animaux.
Alors des animaux autour de toi, quel genre d'animaux ?
Alors il y a des animaux plus connus et plus communs dans les maisons comme les chats et les chiens. Mais mes grands-parents ont aussi des canards, des poules. Et je sais que dans une famille plus éloignée, il y avait aussi des poneys, des chevaux, des moutons. Et...
Voilà, donc tu as toujours baigné un peu dans une atmosphère, oui, où les animaux ont leur place.
C'est ça.
Alors, dis-moi, comment est-ce que tu vois le métier de vétérinaire ?
Je le vois comme une opportunité un peu d'être toute ma vie avec des animaux, mmh, même si je sais que c'est pas toujours ça. Il y a aussi le fait de les opérer, mmh, et aussi les euthanasier. Ça, je pense, c'est la chose la plus, mmh, dure à faire quand on est vétérinaire. Même si c'est un peu une fierté que les gens te confient leur animal pour le faire partir. Mais sinon, j'adorerais faire ce métier.
Ok. Effectivement, hein, quand on doit mettre fin à la vie d'un animal qui souffre, c'est très difficile. Hein, oui. J'en ai fait aussi plusieurs fois l'expérience. Voilà. Dis-moi, alors, y a des moments... Tu es encore trop jeune pour avoir fait un stage chez un vétérinaire.
Oui.
Mais tu sais quand même des choses.
Quelques-unes, effectivement.
Alors, tu m'as dit que le mardi, c'était une journée spéciale pour ton vétérinaire.
Oui, pour le vétérinaire dans lequel vont mes chats. Le mardi, c'est la journée où mon vétérinaire castre les chats et les chiens. Enfin, moi, vu que j'ai des chats, je sais pas trop pour les chiens, mais je pense que oui aussi. Mais sinon, le mardi, c'est la journée où ils stérilisent.
Stérilisent. Alors, à ton avis, pourquoi ? Pourquoi on stérilise des animaux ?
Pour pas qu'ils aient de bébés. Les mâles, si on les stérilise, c'est pour pas qu'ils se battent trop, pour pas qu'ils marquent leur territoire en faisant pipi partout, en étant agressifs. Et les femelles, c'est pas pour qu'elles nous ramènent de bébés à la maison.
Oui, parce qu'après, s'il y en a trop, on ne peut pas s'en occuper.
C'est ça. Je sais que mon tonton, il avait une chatte qui s'est fait prendre. Donc, elle a eu des bébés. Et même pas quelques mois après, ça s'est reproduit. La plupart des chatons sont malheureusement morts.
Oui, c'est sûr. Si on les aime, il faut contrôler leur nombre.
Oui.
Voilà. Est-ce que tu sais comment on devient vétérinaire ?
Il faut faire 7 ans d'études à peu près après le baccalauréat, donc 2 ans de prépa et 5 ans de formation théorique et clinique. Ou sinon, je crois que dans le cas de l'admission post-bac, c'est 6 ans d'études.
D'accord. Donc tu te sens prête pour faire toutes ces années.
C'est ça.
Il faut être bonne en quoi ?
Dans tout ce qui est sciences, mathématiques, physique, chimie, SVT.
Voilà, sciences naturelles, comme on disait autrefois, bien, oui, sûr. Hein. Dis-moi, tu peux nous dire le nom de ton vétérinaire ?
Je ne connais pas son nom, mais je connais le nom de la clinique. C'est clinique vétérinaire de La Fontaine.
À Deuil ? Non.
Je ne suis pas sûre que ça soit vraiment à Deuil. Je crois qu'elle est vers Grolet-Montmorency. Je ne sais pas exactement où elle est, mais elle est dans ce coin-là.
Bon, en tout cas, tu peux déjà réserver un stage en troisième de la part d'IDFM.
Oui.
Voilà. On va passer à Clément.
Oui.
Alors Clément va nous parler d'un tout autre sujet, mais qui est aussi assez terrifiant.
Oui, un virus informatique qui a fait des ravages principalement entre 2016 et 2017. Alors, mais avant de découvrir de quoi il est capable, on va découvrir son histoire. Twitch Booster, donc c'est le nom de ce virus, qui est anciennement appelé Rizitas, a été développé par des membres mal intentionnés du forum 1825 du site jeuxvideo.com. À cette époque, les forums du site jeuxvideo.com n'étaient quasiment pas modérés à cause d'un manque de bénévoles. Twitch Booster avait une promesse, donner une meilleure qualité de diffusion en direct pour la plateforme de Live Twitch. Pour que ce virus se propage, les membres du 1825 envahissent en masse le chat d'un petit streamer en disant que la diffusion bug et qu'il faut installer ce fameux Twitch Booster pour régler les problèmes de diffusion. Une fois l'installation terminée, le virus commence directement à agir. Un message s'affiche sur l'ordinateur de la victime disant qu'elle s'est faite piéger par le 1825 et que son ordinateur arrêtera de fonctionner dans les 5 minutes qui suivent. Puis, l'écran semble fondre avec une musique en fond. L'utilisateur perd alors le contrôle de son ordinateur. Le lecteur de CD s'ouvre et se ferme sans cesse. En arrière-plan, le virus vole vos mots de passe, revoit votre historique de navigation et des captures d'écran aux malfaiteurs et modifie des fichiers nécessaires au fonctionnement de Windows. Au redémarrage de l'ordinateur, un simple jeu de Snake se lance, impossible pour la victime de réaccéder à Windows. Même si ce virus semble puissant, une simple réinstallation du système d'exploitation permet de réutiliser l'ordinateur. Aujourd'hui, jeuxvideo.com a supprimé ce forum et condamne fermement toutes les actions du 1825.
D'accord. Alors dis-moi, c'est assez terrifiant là quand même, Clément, ce que tu nous racontes. Pourquoi tu as choisi ce sujet ?
Alors j'ai choisi ce sujet parce que récemment j'ai revu un article qui en parlait. Et aussi parce que c'est en ce moment, beaucoup de personnes recommencent les lives sur la plateforme Twitch. Car il y a eu un peu comme une période blanche où il n'y avait plus vraiment grand monde. Mais du coup, c'était bien aussi de rappeler un peu tous les dangers qu'il peut y avoir sur Internet et comment des personnes peuvent nous piéger en nous donnant leur confiance. Voilà.
C'est ça. Hein, c'est toujours gagner la confiance pour pouvoir mieux faire du mal, détruire... rançonner, harceler, etc.
Exactement.
Je crois que tu t'intéresses de près vraiment à tout ce qui est numérique, informatique.
Oui, oui.
Parce qu'un jour
Parce qu'un jour, j'aimerais devenir conducteur de train.
Voilà.
Alors, il ne faut pas lancer Clément sur le sujet.
Dis-nous un petit
ça
peu.
Ça pourrait faire l'objet d'une émission entière.
Ah bah, pourquoi pas.
Alors, je sais pas vraiment comment je sais pas du tout d'ailleurs comment cette passion m'est venue, mais le monde ferroviaire, c'est vraiment un monde qui m'intéresse, principalement le ferroviaire de voyageurs. Par exemple, je suis ce qu'on pourrait appeler de spotter, donc quelqu'un qui prend en photo et vidéo des trains. Alors, je n'ai pas encore mon compte, mais peut-être très prochainement... vous pourrez me retrouver sur YouTube.
Donc, quel genre de train tu photographies ? Des trains de banlieue, des trains de longue ligne ?
Alors, principalement des trains de banlieue, mais aussi des TER. Par exemple, sur la ligne qui est juste à côté, entre Enghien, Deuil et tout ça, il y a la ligne H qui passe.
Ah, oui. Bien connue de tous les auditeurs.
La ligne H, qui est opérée avec des trains dits NAT, pour Nouvelle Automotrice Transilien. Et on peut aussi, de temps en temps, retrouver des TER qui font la liaison Paris-Beauvais, qui passent par cette ligne.
D'accord.
Et qui, eux, sont opérés par des Régio 2N. Donc, Régio pour région et 2N pour deux niveaux.
Bah, dis donc, je vois que tu es drôlement branché déjà, oui. C'est uniquement des photos des trains eux-mêmes, pas des voyageurs, pas des gares, tout ça.
Non, que les trains. Je fais toujours très attention à ne pas prendre les gens en photo ni en vidéo.
Tu as combien de photos déjà ?
Je pense qu'au total, je dois être aux alentours de 300.
D'accord.
Parce que en plus, j'ai été à la Cité du Train à Mulhouse. Donc, ça a bien augmenté le nombre de photos.
Est-ce qu'il y a un train mythique que tu aurais aimé conduire ou que tu aimerais conduire ?
Alors, Je pense que quand je pourrais devenir conducteur, il ne sera malheureusement plus en circulation. Mais ça aurait été le Z20500. Donc, c'est une automotrice qui circule sur les lignes de RER, donc le RER C et RER D, mais qui avant circulait sur d'autres lignes de banlieue comme la ligne H, la ligne K et d'autres.
Bon, bah écoute, on donnera rendez-vous peut-être pour une autre émission, effectivement, parce que c'est assez original, encore très jeune. Okay. Moi, je pensais que tu aimerais conduire éventuellement l'Orient Express, enfin, qui n'existe plus, mais qui était le train de tous les mythes, quoi. Voilà. Bah écoute, merci Clément. Et puis attention à tout ce que vos manipulations dans le domaine du numérique, parce qu'il y a sans arrêt des pièges. Faut faire. Et toujours les escrocs sont toujours très très inventifs et très très efficaces.
Vous pouvez perdre de l'argent avec ça.
Ouais, de l'argent et des données en plus. C'est quand même. Ouais. On va passer à Pauline. Pauline, tu vas nous parler.
Des chiens.
Voilà. Vas-y.
Qu'est-ce que tu vas dire? Oui. Les chiens, pour moi, sont les plus mignons, même si certains peuvent être violents. Pour moi, c'est aussi les animaux les plus fidèles. Et voilà, donc il existe en tout plus de 450 races de chiens reconnues, dont par exemple les teckels, les bulldogs et tous les bergers, par exemple les bergers allemands. Voilà. Pour moi, le chien le plus mignon, c'était un bouvier bernois. C'est un petit chien marron, orange et blanc. En fait, je le trouve super mignon parce que quand il tire la langue et qu'il te regarde avec des petits yeux, bah ouais, t'as envie de lui faire un câlin et de lui sauter dessus.
Tu craques.
Oui, voilà ça.
Et tu en as eu un, toi, ou comment tu l'as connu?
En fait, c'était quand j'étais petite. On était à Ikea. Et en fait, quand on est parti, on est passé par le rayon de dos et il y en a un qui m'a plu. Et c'était un bouvier bernois en peluche.
Ah, en peluche, d'accord. Oui. Tu l'as acheté?
C'est mes parents qui m'ont acheté.
Oui. Et en vrai, t'aimerais bien?
Oui, aussi.
Alors, qu'est-ce qu'il faut? C'est bientôt Noël.
Bah oui.
Tu peux nous raconter d'autres choses sur les chiens?
Ils sont dans le top 10 des plus mignons des animaux. Et ils sont très affectueux. Ils peuvent jouer, ils peuvent être dressés aussi.
Et est-ce que tu as des chiens, toi?
Non.
Alors, pourquoi?
Parce que ma mère est allergique.
Mince, ça c'est pas de chance. Par contre, tu as
un chat.
Voilà. Alors, c'est pas mal non plus.
Aussi ça.
Ouais. Peut-être plus facile à s'occuper que.
Oui, je pense.
Ouais. Est-ce que tu imagines un jour avoir une vie autour des chiens? Est-ce que travailler dans un chenil ou être dresseuse de chiens entre guillemets?
Peut-être pas m'occuper des chiens, mais m'occuper d'autres animaux peut-être.
D'accord. Lesquels?
Je sais pas, des animaux pas domestiques.
Non.
Non, pas trop. Je sais pas moi, des animaux qu'on trouve dans des zoos, par exemple.
Ouais.
Je pourrais les nourrir et tout.
Ouais, ouais, ça aussi, c'est un. Même s'ils sont mis en liberté, malheureusement, de plus en plus menacés dans le monde réel, quoi. Voilà. Merci, Pauline. Alors, dernière rubrique, Madame Busson, la documentaliste du collège.
C'est moi.
Voilà. Qui va nous parler, puisque évidemment vous êtes du collège
Émilie Duchâtelet, comme on l'aura bien compris.
Voilà, j'espère que les éditeurs ont bien retenu. Vous allez nous consacrer votre chronique à Émilie Duchâtelet.
Alors effectivement, donc je m'appelle, comme vous venez de l'entendre, je m'appelle Cécile Busson, je suis professeure documentaliste alors au collège Émilie Duchâtelet. Et donc je m'occupe de l'atelier radio du collège avec grand plaisir, parce que c'est une passion pour moi, donc... Je fais ça depuis plusieurs années et donc là, je suis venue avec mes élèves de l'atelier Web Radio. Alors, Émilie Duchâtelet, peu de gens connaissent cette femme. Alors, elle nous vient de l'époque du siècle des Lumières, du XVIIIe siècle. Et c'est vrai que quand on pense au siècle des Lumières, c'est plutôt des noms d'hommes qui nous viennent en tête. Voltaire, Rousseau, Diderot. Et on pense, c'est beaucoup plus rare qu'on pense à des femmes. Et pourtant, Émilie Duchâtelet nous vient de cette époque. Alors, Notre collège s'appelle Émilie du Châtelet, comme vous l'avez bien compris, et c'est assez rare car il n'y a que 2 collèges, 2 lycées et 3 écoles primaires qui portent ce nom en France. Et parmi les établissements qui portent un nom de personnalité, il faut savoir qu'il y a 82% des établissements qui portent un nom d'homme, qui portent celui d'un homme, contre 18% celui d'une femme. Alors, Émilie du Châtelet, elle est née le 17 décembre 1706 à Paris. Et en fait, pour une fille, elle a reçu une éducation exceptionnelle pour une jeune fille de cette époque-là. Très complète, donc langue, sciences, anglais, italien. Et elle s'est passionnée particulièrement pour les mathématiques et la physique. Et c'était une période où les femmes n'avaient pas trop le droit au savoir et à la liberté. Et Émilie, elle va se démarquer. Alors après, elle a eu une éducation quand même. Elle aurait dû aller au couvent, en fait. Hein, mais son père tenait à lui délivrer une éducation, enfin une instruction, à lui donner une instruction. Et donc, elle va se démarquer. Et on peut dire qu'elle va devenir féministe avant l'heure. Parce qu'elle va être mariée à 19 ans au marquis Florent-Claude du Châtelet. Et pourtant, elle va décider de mener sa vie de femme à sa guise. Alors, elle continue à étudier beaucoup, 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 parce que c'est une femme qui a soif de savoir, elle veut tout apprendre. Et elle se passionne notamment pour les théories du scientifique britannique Isaac Newton. Alors, la jeune femme qui gravite dans le milieu des philosophes des Lumières, comme on l'a dit, rencontre Voltaire, justement. Et il tombe éperdument amoureux et quitte Paris pour le château de Cirey, en Haute-Marne. C'est un endroit qui va devenir leur havre de paix, où ils s'aiment et ils étudient tout autant. Ils sont vraiment tous les deux très érudits et leur passion commune pour la philosophie et les sciences les unit. Alors, fait marquant, qui est revenu jusqu'à nos jours, en 1745, Émilie du Châtelet va traduire les principes mathématiques d'Isaac Newton du latin au français. Mais elle ne sera publiée que 10 ans après sa mort, en 1759, et grâce à Voltaire. Et c'est quand même la première femme savante française publiée par l'Académie des sciences. Alors voilà, moi je voudrais qu'on rende hommage à cette femme extraordinaire, érudite et combative. Et on peut être fier de travailler et d'étudier dans un établissement scolaire qui porte son nom. Donc quel nom déjà ?
Émilie du Châtelet.
Voilà.
Voilà. Est-ce que les enfants, vous étiez tous informés de cette femme et de son rôle qu'elle a joué ?
Oui, je savais juste
de nom, mais... Oui. Sinon, non.
D'accord. Vous êtes content d'être élève dans ce collège, quand même ?
Oui.
Il faut présenter cette personnalité autour de vous.
En tout cas, c'est rare. Hein.
Ouais, très rare.
Il n'y a que 7 établissements qui portent ce nom en France.
Voilà. Bah, écoutez, les enfants, notre émission se termine. Un dernier mot.
Merci à toi.
Merci, IDFM.
Merci
Radio.
Beaucoup.
Merci,
IDFM. De nous avoir accueillis.
Merci, IDFM Radio, de nous avoir accueillis.
Voilà. Merci beaucoup. Voilà.
Et restez fidèles
au micro.
J'espère que vous avez kiffé notre émission.
On a kiffé, t'inquiète pas. Et puis, on se retrouvera certainement d'ici quelques mois. Ça sera avec beaucoup de plaisir.
Ouais.
Merci beaucoup.
Merci à tous.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Alors, écoute, pour te faire plaisir, on va écouter une petite chronique de quelqu'un qui s'appelle Thierry Villette, qui en 2023 nous vantait les bienfaits de la douche froide. On écoute. Oui, on parlait donc de la Champions League, la finale qui aura lieu au mois de mai. Mais il y a aussi la Coupe d'Europe des féminines. Vous le saviez, ça ?
Oui, je le savais.
Ouais. Et elles ont aussi leur hymne. Hein, que, on va en écouter aussi un petit extrait, tiens. Voilà. Donc, on va passer à un troisième sujet. Alors, le sujet Noam. Alors là, Noam, quand j'ai vu le sujet donc, que tu voulais aborder... Je me suis dit, tiens, c'est original. Noam, à toi la parole.
Bonjour, je m'appelle Noam, fondateur du podcast For Runner, le premier podcast qui regroupe développement personnel et running. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qu'on voit partout dans les vidéos des persos. Donc, j'ai commencé à en prendre. Et du coup, dans ma chronique, on va parler des bienfaits de la douche froide. Alors, déjà, la douche froide, on peut l'associer à de la cryothérapie. Mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la cryothérapie, c'est une technique thérapeutique qui consiste à utiliser le froid à des fins médicales. Les douches froides, ça va aussi augmenter la circulation sanguine et augmenter le nombre de globules blancs. Et les douches froides, ça va aussi sécréter de la dopamine et de la sérotonine. Du coup, c'est les hormones du bonheur. Et du coup, en gros, ton niveau de bonheur de base sera plus haut après une douche froide, ce qu'on appelle la gratification différée. Et les douches froides aussi, ça va te mettre dans un état d'inconfort. Parce que c'est vrai que dans ce monde, on vit vraiment dans un monde où le confort, il est à portée de main avec notre portable et tout ça. Et que la petite claque que te met la douche froide, bah, ça va te faire réfléchir. Et donc, j'ai fini avec ce que je voulais dire. J'en profite. Si vous voulez en savoir plus sur le développement personnel et le running, n'hésitez pas à écouter mon podcast Forerunner sur toutes les plateformes. Salut!
Ah, mais c'est super ça. Tu fais un boulot de. On va t'embaucher comme animateur à IDFM. Alors, redis-nous le titre de ton podcast. C'est
Forerunner.
Forerunner, pourquoi Forerunner?
Parce qu'en fait, il y a une montre Garmin qui s'appelle Forerunner et j'ai bien aimé le nom, donc je l'ai repris et comme du coup c'est la montre que beaucoup de gens prennent pour courir, pour faire du sport et tout. Donc,
ok, d'accord.
Voilà.
Donc ton prénom, rappelle-nous.
Noam.
Comment on fait pour te retrouver ton podcast?
Sur Spotify, okay. Ou podcast sur Apple ou toutes les plateformes en gros, il y aura, vous marquez Forerunner et donc voilà.
D'accord, bah, on ne va pas manquer ça, parce que franchement, ça vaut le coup. Alors, bah, écoute, pour te faire plaisir, on va écouter une petite chronique de quelqu'un qui s'appelle Thierry Villette, qui en 2023 nous vantait les bienfaits de la douche froide. On écoute. Voilà, puis pour compléter un peu cette chronique tonique, hein, très tonique, on va écouter aussi un duo né de l'amitié entre deux garçons qui s'appellent Jean et Simon et qui sont intitulés Midi 51. Alors c'est un drôle de nom pour un groupe, mais il faut savoir que Midi c'était un format de fichiers musical dans les années 80. Donc ils sont donné ce titre-là et ils interprètent une chanson qui s'appelle « Douche froide, ça fait du bien ». On écoute un extrait en tout cas. Là, je vais enregistrer déjà une première partie.